Chapitre 16 de la littérature sous Bonaparte. Cette même police, pour laquelle nous n'avons pas de terme assez méprisant, pas de terme qui puisse mettre assez de distance entre un honnête homme et quiconque pouvait entrer dans une telle caverne, c'était elle que Bonaparte avait chargé de diriger l'esprit public en France. Et en effet, dès qu'il n'y a pas de liberté de la presse, et que la censure de la police ne s'en tient pas à réprimer, mais dicte à tout un peuple les opinions qu'il doit avoir sur la politique, sur la religion, sur les mœurs, sur les livres, sur les individus, dans quel état doit tomber une nation qui n'a d'autre nourriture pour ses pensées que celle que permet ou prépare l'autorité despotique. Il ne faut donc pas s'étonner si en France la littérature et la critique littéraire sont déchues à un tel point. Ce n'est pas certainement qu'il y ait nulle part plus d'esprit et plus d'aptitude à tout que chez les Français. On peut voir quels progrès étonnants ils ne cessent de faire dans les sciences et dans l'érudition, parce que ces deux carrières ne touchent en aucune façon à la politique. Tandis que la littérature ne peut rien produire de grand maintenant sans la liberté. On objecte toujours les chefs-d'œuvre du siècle de Louis XIV. Mais l'esclavage de la presse était beaucoup moins sévère sous ce souverain que sous Bonaparte. Vers la fin du règne de Louis XIV, Fénelon et d'autres penseurs traitaient déjà les questions essentielles aux intérêts de la société. Le génie poétique s'épuise dans chaque pays, tour à tour, et ce n'est qu'après de certains intervalles qu'il peut renaître. Mais l'art d'écrire en prose, inséparable de la pensée, embrasse nécessairement toute la sphère philosophique des idées. Et quand on condamne des hommes de lettres à tourner dans le cercle des madrigaux et des idylles, on leur donne aisément le vertige de la flatterie. Ils ne peuvent rien produire qui dépasse les faubourgs de la capitale et les bornes du temps présent. La tâche imposée aux écrivains sous Bonaparte était singulièrement difficile. Il fallait qu'ils combattissent avec acharnement les principes libéraux de la Révolution, mais qu'ils en respectassent tous les intérêts, de façon que la liberté fût anéantie, mais que les titres, les biens et les emplois des révolutionnaires fussent consacrés. Bonaparte disait un jour, en parlant de Jean-Jacques Rousseau, « C'est pourtant lui qui a été la cause de la Révolution. Au reste, je ne dois pas m'en plaindre, car j'y ai attrapé le trône. » C'était ce langage qui devait servir de texte aux écrivains, pour saper sans relâche les lois constitutionnelles et les droits imprescriptibles sur lesquels ces lois sont fondées. Mais pour exalter le conquérant despote que les orages de la Révolution avaient produit et qui les avaient calmés. S'agissait-il de la religion, Bonaparte faisait mettre sérieusement dans ses proclamations que les Français doivent se défier des Anglais, parce qu'ils étaient des hérétiques. Mais voulait-il justifier les persécutions que subissait le plus vénérable et le plus modéré des chefs de l'Église, le pape Pie VII? Il l'accusait de fanatisme. La consigne était de dénoncer, comme partisan de l'anarchie, quiconque émettait une opinion philosophique en aucun genre. Mais si quelqu'un, parmi les nobles, semblait insinuer que les anciens princes s'entendaient mieux que les nouveaux à la dignité des cours, on ne manquait pas de le signaler comme un conspirateur. Enfin, il fallait repousser ce qu'il y avait de bon dans chaque manière de voir, afin de composer le pire des fléaux humains, la tyrannie dans un pays civilisé. Quelques écrivains ont essayé de faire une théorie abstraite du despotisme, afin de le recrépir, pour ainsi dire, de façon à lui donner un air de nouveauté philosophique. D'autres, du parti des parvenus, se sont plongés dans le machiavélisme, comme s'il y avait là de la profondeur. Ils ont présenté le pouvoir des hommes de la Révolution comme une garantie suffisante contre le retour des anciens gouvernements. Comme s'il n'y avait que des intérêts dans ce monde, et que la direction de l'espèce humaine n'eût rien de commun avec la vertu. Il n'est resté de ces tours d'adresse qu'une certaine combinaison de phrases, sans l'appui d'aucune idée vraie, et néanmoins construite, comme il le faut grammaticalement, avec des verbes, des nominatifs et des accusatifs. « Le papier souffre tout », disait un homme d'esprit. Sans doute, il souffre tout, mais les hommes ne gardent point le souvenir des sophismes. Et fort heureusement pour la dignité de la littérature, aucun monument de cet art généreux ne peut s'élever sur de fausses bases. Il faut des accents de vérité pour être éloquent. Il faut des principes justes pour raisonner. Il faut du courage d'âme pour avoir des élans de génie. Et rien de semblable ne peut se trouver dans ces écrivains qui suivent à tout vent la direction de la force. Les journaux étaient remplis des adresses à l'empereur, des promenades de l'empereur, de celles des princes et des princesses, des étiquettes et des présentations à la cour. Ces journaux, fidèles à l'esprit de servitude, trouvaient le moyen d'être fades à l'époque du bouleversement du monde. Et sans les bulletins officiels qui venaient de temps en temps nous apprendre que la moitié de l'Europe était conquise, on aurait pu croire qu'on vivait sous des berceaux de fleurs et qu'on n'avait rien de mieux à faire que de compter les pas des majestés et des altesses impériales et de répéter les paroles gracieuses qu'elles avaient bien voulu laisser tomber sur la tête de leurs sujets prosternés. Est-ce ainsi que les hommes de lettres, que les magistrats de la pensée doivent se conduire en présence de la postérité? Quelques personnes, cependant, ont tenté d'imprimer des livres sous la censure de la police. Mais qu'en arrivait-il? Une persécution comme celle qui m'a forcé de m'enfuir par Moscou pour chercher un asile en Angleterre. Le libraire Palm a été fusillé en Allemagne pour n'avoir pas voulu nommer l'auteur d'une brochure qu'il avait imprimée. Et si des exemples, plus nombreux encore, de proscriptions ne peuvent être cités, c'est que le despotisme était si fortement mis en exécution qu'on avait fini par s'y soumettre, comme aux terribles lois de la nature, la maladie et la mort. Ce n'est pas seulement à des rigueurs sans fin qu'on s'exposait sous une tyrannie aussi persévérante, mais on ne pouvait jouir d'aucune gloire littéraire pour son pays, quand les journaux, aussi multipliés que sous un gouvernement libre, et néanmoins soumis tous au même langage, vous harcelaient de leurs plaisanteries de commande. J'ai fourni, pour ma part, des refrains continuels aux journalistes français depuis 15 ans. La mélancolie du Nord, la perfectibilité de l'espèce humaine, les muses romantiques, les muses germaniques. Le joug de l'autorité et l'esprit d'imitation étaient imposés à la littérature comme le journal officiel dictait les articles de foi en politique. Un bon instinct de despotisme faisait sentir aux agents de la police littéraire que l'originalité dans la manière d'écrire peut conduire à l'indépendance du caractère, et qu'il faut bien se garder de laisser introduire à Paris les livres des Anglais et des Allemands, si l'on ne veut pas que les écrivains français, tout en respectant les règles du goût, suivent les progrès de l'esprit humain dans les pays où des troubles civils n'en ont pas ralenti la marche. Enfin, de toutes les douleurs que l'esclavage de la presse fait éprouver, la plus amère, c'est de voir insulter dans les feuilles publiques ce qu'on a de plus cher, ce qu'on respecte le plus, sans qu'il soit possible de faire admettre une réponse dans ces mêmes gazettes, qui sont nécessairement plus populaires que les livres. Quelle lâcheté dans ceux qui insultent les tombeaux, quand les amis des morts ne peuvent en prendre la défense! Quelle lâcheté dans ces folliculaires qui attaquaient aussi les vivants avec l'autorité derrière eux, et servait d'avant-garde à toutes les proscriptions que le pouvoir absolu prodigue dès qu'on lui suggère le moindre soupçon. Quel style que celui qui porte le cachet de la police ! À côté de cette arrogance, à côté de cette bassesse, quand on lisait quelques discours des Américains ou des Anglais, des hommes publics enfin, qui ne cherchent, en s'adressant aux autres hommes, qu'à leur communiquer leurs convictions intimes, on se sentait ému, comme si la voix d'un ami s'était tout à coup fait entendre à l'être abandonné, qui ne savait plus où trouver un semblable. Chapitre 17. Un mot de Bonaparte imprimé dans le Moniteur. Ce n'était pas assez que tous les actes de Bonaparte fussent empreints d'un despotisme toujours plus audacieux. Il fallait encore qu'il révélât lui-même le secret de son gouvernement, méprisant assez l'espèce humaine pour le lui dire. Il fit mettre dans le Moniteur du mois de juillet 1810 ses propres paroles qu'il adressait au second fils de son frère Louis Bonaparte. Cet enfant était alors destiné au grand-duché de Berg. « N'oubliez jamais, lui dit-il, dans quelque position que vous place ma politique et l'intérêt de mon empire, que vos premiers devoirs sont envers moi, vos seconds envers la France. Tous vos autres devoirs, même ceux envers les peuples que je pourrais vous confier, ne viennent qu'après. Il ne s'agit pas là de libelle. Il ne s'agit pas là d'opinion de parti. C'est lui, lui Bonaparte, qui s'est dénoncé ainsi plus sévèrement que la postérité n'aurait jamais osé le faire. » Louis XIV fut accusé d'avoir dit, dans son intérieur, « L'État, c'est moi. » Et les historiens éclairés se sont appuyés avec raison sur ce langage égoïste pour condamner son caractère. Mais si, lorsque ce monarque plaça son petit-fils sur le trône d'Espagne, il lui avait enseigné publiquement la même doctrine que Bonaparte enseignait à son neveu, peut-être que Bossuet lui-même n'aurait pas osé préférer les intérêts des rois à ceux des nations. Et c'est un homme élu par le peuple qui a voulu mettre son « moi » gigantesque à la place de l'espèce humaine. Et c'est lui que les amis de la liberté ont pu prendre un instant pour le représentant de leur cause. Plusieurs ont dit « Il est l'enfant de la Révolution ». Oui, sans doute, mais un enfant parricide. Devait-il donc le reconnaître ? Chapitre 18 de la doctrine politique de Bonaparte. Un jour, M. Suard, l'homme de lettres français qui réunit au plus haut degré le tact de la littérature à la connaissance du grand monde, parlait avec courage, devant Napoléon, sur la peinture des empereurs romains dans Tacite. « Fort bien, dit Napoléon. Mais il devait nous expliquer pourquoi le peuple romain tolérait et même aimait ces mauvais empereurs. C'était là ce qu'il importait de faire connaître à la postérité. Tâchons de ne pas mériter, relativement à l'empereur de France lui-même, les reproches qu'il faisait à l'historien romain. Les deux principales causes du pouvoir de Napoléon en France ont été sa gloire militaire avant tout, et l'art qu'il eut de rétablir l'ordre sans attaquer les passions intéressées que la Révolution avait fait naître. Mais tout ne consistait pas dans ces deux problèmes. On prétend qu'au milieu du Conseil d'État, Napoléon montrait dans la discussion une sagacité universelle. Je doute un peu de l'esprit qu'on trouve à un homme tout-puissant. Il nous en coûte davantage, à nous autres particuliers, pour gagner notre vie de célébrité. Néanmoins, on n'est pas 15 ans le maître de l'Europe sans avoir une vue perçante sur les hommes et sur les choses. Mais il y avait dans la tête de Bonaparte une incohérence, très distinctif de tous ceux qui ne classent pas leurs pensées sous la loi du devoir. La puissance du commandement avait été donnée par la nature à Bonaparte. mais c'était plutôt parce que les hommes n'agissaient point sur lui que parce qu'il agissait sur eux, qu'il parvenait à en être le maître. Les qualités qu'il n'avait pas lui servaient autant que les talents qu'il possédait. Il ne se faisait obéir qu'en avilissant ceux qu'il soumettait. Ses succès sont étonnants, ses revers plus étonnants encore. Ce qu'il a fait avec l'énergie de la nation est admirable. L'état d'engourdissement dans lequel il l'a laissé peut à peine se concevoir. La multitude d'hommes d'esprit qu'il a employés est extraordinaire. Mais les caractères qu'il a dégradés nuisent plus à la liberté que toutes les facultés de l'intelligence ne pourraient y servir. C'est à lui surtout que peut s'appliquer la belle image du despotisme dans l'esprit des lois. Il a coupé l'arbre par la racine pour en avoir le fruit, et peut-être a-t-il desséché le sol même. Enfin, Bonaparte, maître absolu de 80 millions d'hommes, ne rencontrant plus d'opposition nulle part, n'a su fonder ni une institution dans l'État, ni un pouvoir stable pour lui-même. Quel est donc le principe destructeur qui suivait ses pas triomphants? Quel était-il? Le mépris des hommes, et par conséquent de toutes les lois, de toutes les études, de tous les établissements, de toutes les institutions dont la base est le respect pour l'espèce humaine. Bonaparte s'est enivré de ce mauvais vin du machiavélisme. Il ressemblait, sous plusieurs rapports, aux tyrans italiens du XIVe et du XVe siècle. Et comme il avait peu lu, l'instruction ne combattait point dans sa tête la disposition naturelle de son caractère. L'époque du Moyen-Âge étant la plus brillante de l'histoire des Italiens, beaucoup d'entre eux n'estiment que trop les maximes des gouvernements d'alors. Et ces maximes ont toutes été recueillies par Machiavel. En relisant dernièrement en Italie son fameux écrit du Prince, qui trouve encore des croyants parmi les possesseurs du pouvoir, un fait nouveau et une conjecture nouvelle m'ont paru dignes d'attention. D'abord, on vient de publier, en 1813, les lettres de Machiavel trouvées dans les manuscrits de la bibliothèque Barberini, qui prouvent positivement que c'est pour se raccommoder avec les Médicis qu'il a publié Le Prince. On lui avait fait subir la question à cause de ses efforts en faveur de la liberté. Il était ruiné, malade et sans ressources. Il transigea, mais après la torture. En vérité, l'on cède à moins de nos jours. Ce traité du Prince, où l'on retrouve malheureusement la supériorité d'esprit que Machiavel avait développée dans une meilleure cause, n'a point été composé, comme on l'a cru, pour faire haïr le despotisme en montrant quelles affreuses ressources les despotes doivent employer pour se maintenir. C'est une supposition trop détournée pour être admise. Il me semble plutôt que Machiavel, détestant avant tout le joug des étrangers en Italie, tolérait et encourageait même les moyens, quels qu'ils fussent, dont les princes du pays pouvaient se servir pour être les maîtres, espérant qu'ils seraient assez forts un jour pour repousser les troupes allemandes et françaises. Machiavel analyse l'art de la guerre dans ses écrits comme les hommes du métier pourraient le faire. Il revient sans cesse à la nécessité d'une organisation militaire purement nationale. Et s'il a souillé sa vie par son indulgence pour les crimes des Borgia, c'est peut-être parce qu'il s'abandonnait trop au besoin de tout tenter pour recouvrer l'indépendance de sa patrie. Bonaparte n'a sûrement pas examiné le prince de Machiavel sous ce point de vue. Mais il y a cherché ce qui passe encore pour de la profondeur parmi les âmes vulgaires, l'art de tromper les hommes. Cette politique doit tomber à mesure que les lumières s'étendront. Ainsi, la croyance à la sorcellerie n'existe plus depuis qu'on a découvert les véritables lois de la physique. Un principe général, quel qu'il fût, déplaisait à Bonaparte comme une niaiserie ou comme un ennemi. Il n'écoutait que les considérations du moment et n'examinait les choses que sous le rapport de leur utilité immédiate, car il aurait voulu mettre le monde entier en rente viagère sur sa tête. Il n'était point sanguinaire, mais indifférent à la vie des hommes. Il ne la considérait que comme un moyen d'arriver à son but, ou comme un obstacle à écarter de sa route. Il n'était pas même aussi colère qu'il a souvent paru l'être. Il voulait effrayer avec ses paroles, afin de s'épargner le fait par la menace. Tout était chez lui moyen ou but. L'involontaire ne se trouvait nulle part, ni dans le bien, ni dans le mal. On prétend qu'il a dit « J'ai tant de conscrits à dépenser par an ». Ce propos est vraisemblable, car Bonaparte a souvent assez méprisé ses auditeurs pour se complaire dans un genre de sincérité qui n'est que de l'impudence. Jamais il n'a cru aux sentiments exaltés, soit dans les individus, soit dans les nations. Il a pris l'expression de ses sentiments pour de l'hypocrisie. Il pensait tenir la clé de la nature humaine par la crainte et par l'espérance, habilement présentée aux égoïstes et aux ambitieux. Il faut en convenir, sa persévérance et son activité ne se ralentissaient jamais quand il s'agissait des moindres intérêts du despotisme. Mais c'était le despotisme même qui devait retomber sur sa tête. Une anecdote, dans laquelle j'ai eu quelque part, peut offrir une donnée de plus sur le système de Bonaparte, relativement à l'art de gouverner. Le duc de Melzi, qui a été pendant quelque temps vice-président de la République cisalpine, était un des hommes les plus distingués que cette Italie, si féconde en tout genre, ait produit. Né d'une mère espagnole et d'un père italien, il réunissait la dignité d'une nation à la vivacité de l'autre. Et je ne sais si l'on pourrait citer, même en France, un homme plus remarquable par sa conversation et par le talent plus important et plus nécessaire de connaître et de juger tous ceux qui jouaient un rôle politique en Europe. Le premier consul fut obligé de l'employer parce qu'il jouissait du plus grand crédit parmi ses concitoyens et que son attachement à sa patrie n'était mis en doute par personne. Bonaparte n'aimait point à se servir d'hommes qui fussent désintéressés et qui eussent des principes quelconques inébranlables. Aussi tournait-il sans cesse autour de Melzi pour le corrompre. Après s'être fait couronner roi d'Italie en 1805, Bonaparte se rendit au corps législatif de Lombardie et dit à l'Assemblée qu'il voulait donner une terre considérable au duc de Melzi pour acquitter la reconnaissance publique envers lui. Il espérait ainsi le dépopulariser. Me trouvant alors à Milan, je vis le soir M. de Melzi qui était vraiment au désespoir du tour perfide que Napoléon lui avait joué, sans l'en prévenir en aucune manière. Et comme Bonaparte se serait irrité d'un refus, je conseillai à M. de Melzi de consacrer tout de suite à un établissement public les revenus dont on avait voulu l'accabler. Il adopta mon avis, et dès le jour suivant, en se promenant avec l'empereur, il lui dit que telle était son intention. Bonaparte lui saisit le bras et s'écria « C'est une idée de Madame de Staël que vous me dites là, je le parie. Mais ne donnez pas, croyez-moi, dans cette philanthropie romanesque du XVIIIe siècle. Il n'y a qu'une chose à faire dans ce monde, c'est d'acquérir toujours plus d'argent et de pouvoir. Tout le reste est chimère. » Beaucoup de gens diront qu'il avait raison. Je crois, au contraire, que l'histoire montrera qu'en établissant cette doctrine, en déliant les hommes de l'honneur partout ailleurs que sur le champ de bataille, il a préparé ses partisans à l'abandonner, conformément à ses propres préceptes, quand il cesserait d'être le plus fort. Aussi peut-il se vanter d'avoir eu plus de disciples fidèles à son système que de serviteurs dévoués à son infortune. il consacrait sa politique par le fatalisme, seule religion qui puisse s'accorder avec le dévouement à la fortune. Et sa prospérité croissant toujours, il a fini par se faire le grand prêtre et l'idole de son propre culte, croyant en lui comme si ses désirs étaient des présages et ses desseins des oracles. La durée du pouvoir de Bonaparte était une leçon d'immoralité continuelle. S'il avait toujours réussi, qu'aurions-nous pu dire à nos enfants ? Il nous serait toujours resté sans doute la jouissance religieuse de la résignation. Mais la masse des habitants de la terre aurait en vain cherché les intentions de la Providence dans les affaires humaines. Toutefois, en 1811, les Allemands appelaient encore Bonaparte l'homme de la destinée. L'imagination de quelques Anglais même était ébranlée par ses talents extraordinaires. La Pologne et l'Italie espéraient encore de lui leur indépendance, et la fille des Césars était devenue son épouse. Cet insigne honneur lui causa comme un transport de joie, étranger à sa nature. Et pendant quelque temps, on dut croire que cette illustre compagne pourrait changer le caractère de celui que le sort avait rapproché d'elle. Il ne fallait encore, à cette époque, à Bonaparte, qu'un sentiment honnête pour être le plus grand souverain du monde, soit l'amour paternel qui porte les hommes à soigner l'héritage de leurs enfants, soit la pitié pour ces Français qui se faisaient tuer pour lui au moindre signe, soit l'équité envers les nations étrangères qui le regardaient avec étonnement, soit, enfin, cette espèce de sagesse naturelle à tout homme, au milieu de la vie, quand il voit s'approcher les grandes ombres qui doivent bientôt l'envelopper. Une vertu, une seule vertu, et c'en était assez pour que toutes les prospérités humaines s'arrêtassent sur la tête de Bonaparte. Mais l'étincelle divine n'existait pas dans son cœur. Le triomphe de Bonaparte en Europe, comme en France, reposait en entier sur une grande équivoque qui dure encore pour beaucoup de gens. Les peuples s'obstinaient à le considérer comme le défenseur de leurs droits, dans le moment où il en était le plus grand ennemi. La force de la Révolution de France, dont il avait hérité, était immense, parce qu'elle se composait de la volonté des Français et du vœu secret des autres nations. Napoléon s'est servi de cette force contre les anciens gouvernements pendant plusieurs années, avant que les peuples aient découvert qu'il ne s'agissait pas d'eux. Les mêmes noms subsistaient encore. C'était toujours la France, jadis le foyer des principes populaires. Et bien que Bonaparte détruisît les républiques et qu'il excita les rois et les princes à des actes de tyrannie, contraires même à leur modération naturelle, on croyait encore que tout cela finirait par de la liberté. Et souvent lui-même parlait de constitution, du moins quand il s'agissait du règne de son fils. Toutefois, le premier pas que Napoléon ait fait vers sa ruine, c'est l'entreprise contre l'Espagne, car il a trouvé là une résistance nationale, la seule dont l'art ni la corruption de la diplomatie ne pussent le débarrasser. Il ne s'est pas douté du danger qu'une guerre de villages et de montagnes pouvait faire courir à son armée. Il ne croyait point à la puissance de l'âme. Il comptait les baïonnettes. Et comme, avant l'arrivée des armées anglaises, il n'y en avait presque point en Espagne, il n'a pas su redouter la seule puissance, invincible, l'enthousiasme de tout un peuple. Les Français, disait Bonaparte, sont des machines nerveuses. Et il voulait expliquer par là le mélange d'obéissance et de mobilité qui est dans leur nature. Ce reproche est peut-être juste, mais il est pourtant vrai qu'une persévérance invincible depuis près de 30 ans se trouve au fond de ses défauts, et c'est parce que Bonaparte a ménagé l'idée dominante qu'il a régné. Les Français ont cru pendant longtemps que le gouvernement impérial les préservait des institutions de l'ancien régime, qui leur sont particulièrement odieuses. ils ont confondu longtemps aussi la cause de la révolution avec celle d'un nouveau maître. Beaucoup de gens de bonne foi se sont laissés séduire par ce motif. D'autres ont tenu le même langage, lors même qu'ils n'avaient plus la même opinion. Et ce n'est que très tard que la nation s'est désintéressée de Bonaparte. À dater de ce jour, l'abîme a été creusé sous ses pas. Chapitre 19. Enivrement du pouvoir, revers et abdication de Bonaparte. Cette vieille Europe m'ennuie, disait Napoléon avant de partir pour la Russie. En effet, il ne rencontrait plus d'obstacles à ses volontés nulle part. Et l'inquiétude de son caractère avait besoin d'un aliment nouveau. Peut-être aussi la force et la clarté de son jugement s'altérèrent-elles quand les hommes et les choses plièrent tellement devant lui, qu'il n'eut plus besoin d'exercer sa pensée sur aucune des difficultés de la vie. Il y a dans le pouvoir sans bornes une sorte de vertige qui saisit le génie comme la sottise, et les perd également l'un et l'autre. L'étiquette orientale que Bonaparte avait établie dans sa cour interceptait les lumières que l'on peut recueillir par les communications faciles de la société. Quand il y avait 400 personnes dans son salon, un aveugle aurait pu s'y croire seul, tant le silence qu'on observait était profond. Les maréchaux de France, au milieu des fatigues de la guerre, au moment de la crise d'une bataille, entraient dans la tente de l'empereur pour lui demander ses ordres, et il ne leur était pas permis de s'y asseoir. Sa famille ne souffrait pas moins que les étrangers de son despotisme et de sa hauteur. Lucien a mieux aimé vivre prisonnier en Angleterre que de régner sous les ordres de son frère. Louis Bonaparte, dont le caractère est généralement estimé, se vit contraint, par sa probité même, à renoncer à la couronne de Hollande. Et le croirait-on, quand il causait avec son frère pendant 2 heures, tête à tête, forcé par sa mauvaise santé de s'appuyer péniblement contre la muraille, Napoléon ne lui offrait pas une chaise. Il demeurait lui-même debout, de crainte que quelqu'un n'eût l'idée de se familiariser assez avec lui pour s'asseoir en sa présence. La peur qu'il causait dans les derniers temps était telle que personne ne lui adressait le premier la parole sur rien. Quelquefois, il s'entretenait avec la plus grande simplicité au milieu de sa cour et dans son conseil d'État. Il souffrait la contradiction, il y encourageait même, quand il s'agissait de questions administratives ou judiciaires, sans relation avec son pouvoir. Il fallait voir alors l'attendrissement de ceux auxquels il avait rendu, pour un moment, la respiration libre. Mais quand le maître reparaissait, on demandait en vain au ministre de présenter un rapport à l'empereur contre une mesure injuste. S'agissait-il même de la victime d'une erreur, de quelque individu pris par hasard sous le grand filet tendu sur l'espèce humaine? Les agents du pouvoir vous objectaient la difficulté de s'adresser à Napoléon, comme s'il eût été question du grand lama. Une telle stupeur causée par la puissance aurait fait rire. Si l'État où se trouvaient les hommes, sans appui sous ce despotisme, n'eût pas inspiré la plus profonde pitié. Les compliments, les hymnes, les adorations sans nombre et sans mesure dont ces gazettes étaient remplies, devaient fatiguer un homme d'un esprit aussi transcendant. Mais le despotisme de son caractère était plus fort que sa propre raison. Il aimait moins les louanges vraies que les flatteries serviles, parce que dans les unes on n'aurait vu que son mérite, tandis que les autres attestaient son autorité. En général, il a préféré la puissance à la gloire, car l'action de la force lui plaisait trop pour qu'il s'occupât de la postérité, sur laquelle on ne peut l'exercer. Mais un des résultats du pouvoir absolu qui a le plus contribué à précipiter Bonaparte de son trône, c'est que, par degrés, l'on n'osait plus lui parler avec vérité sur rien. Il a fini par ignorer qu'il faisait froid à Moscou dès le mois de novembre, parce que personne parmi ses courtisans ne s'est trouvé assez romain pour oser lui dire une chose aussi simple. En 1811, Napoléon avait fait insérer et désavouer en même temps dans le Moniteur une note secrète imprimée dans les journaux anglais comme ayant été adressée par son ministre des Affaires étrangères à l'ambassadeur de Russie. Il y était dit que l'Europe ne pouvait être en paix tant que l'Angleterre et sa constitution subsisteraient. Que cette note fût authentique ou non, elle portait du moins le cachet de l'école de Napoléon et exprimait certainement sa pensée. Un instinct dont il ne pouvait se rendre compte lui apprenait que tant qu'il y aurait un foyer de justice et de liberté dans le monde, le tribunal, qui devait le condamner, tenait ses séances permanentes. Bonaparte joignait peut-être à la folle idée de la guerre de Russie celle de la conquête de la Turquie, du retour en Égypte et de quelques tentatives sur les établissements des Anglais dans l'Inde. Tels étaient les projets gigantesques avec lesquels il se rendit la première fois à Dresde, traînant après lui les armées de tout le continent de l'Europe, qui l'obligeaient à marcher contre la puissante nation limitrophe de l'Asie. Les prétextes étaient de peu de choses pour un homme arrivé à un tel degré de pouvoir. Cependant, il fallait adopter sur l'expédition de Russie une phrase à donner aux courtisans, comme le mot d'ordre. Cette phrase était que la France se voyait obligée de faire la guerre à la Russie parce qu'elle n'observait pas le blocus continental envers l'Angleterre. Or, pendant ce temps, Bonaparte accordait lui-même sans cesse à Paris des licences pour des échanges avec les négociants de Londres. Et l'empereur de Russie aurait pu, à meilleur droit, lui déclarer la guerre comme manquant au traité par lequel il s'était engagé réciproquement à ne point faire de commerce avec les Anglais. Mais qui se donnerait la peine aujourd'hui de justifier une telle guerre? Personne, pas même Bonaparte, car son respect pour les succès est tel qu'il doit se condamner lui-même d'avoir encouru de si grands revers. Cependant, le prestige de l'admiration et de la terreur que Napoléon inspirait était si grand que l'on n'avait guère de doute sur ses triomphes. Pendant qu'il était à Dresde, en 1812, environné de tous les souverains de l'Allemagne et commandant une armée de 500 000 hommes, composée de presque toutes les nations européennes, il paraissait impossible, d'après les calculs humains, que son expédition ne fût pas heureuse. En effet, dans sa chute, la Providence s'est montrée de plus près à la terre que dans tout autre événement, et les éléments ont été chargés de frapper les premiers, le maître des hommes. On peut à peine se figurer aujourd'hui que, si Bonaparte avait réussi dans son entreprise contre la Russie, il n'y avait pas un coin de la terre continentale où l'on pût lui échapper. Tous les ports étant fermés, le continent était comme la tour du Golin, murée de toutes parts. Menacé de la prison par un préfet très docile au pouvoir, si je montrais la moindre intention de m'éloigner un jour de ma demeure, je m'échappais. Lorsque Bonaparte était prêt d'entrer en Russie, craignant de ne plus trouver d'issue en Europe, si j'eusse différé plus longtemps. Je n'avais déjà plus que deux chemins pour aller en Angleterre, Constantinople ou Pétersbourg. La guerre entre la Russie et la Turquie rendait la route par ce dernier pays presque impraticable. Je ne savais ce que je deviendrais quand l'empereur Alexandre voulut bien m'envoyer à Vienne un passeport. En entrant dans son empire, reconnu pour absolu, je me sentis libre pour la première fois depuis le règne de Bonaparte, non pas seulement à cause des vertus personnelles de l'empereur Alexandre, mais parce que la Russie était le seul pays où Napoléon ne fit point sentir son influence. Il n'est aucun ancien gouvernement que l'on pût comparer à cette tyrannie, hantée sur une révolution, à cette tyrannie qui s'était servi du développement même des Lumières pour mieux enchaîner tous les genres de liberté. Je me propose d'écrire un jour ce que j'ai vu de la Russie. Toutefois, je dirais, sans me détourner de mon sujet, que c'est un pays mal connu, parce qu'on a presque observé de cette nation qu'un petit nombre d'hommes de cour, dont les défauts sont d'autant plus grands que le pouvoir du souverain est moins limité. Ils ne brillent pour la plupart que par l'intrépide bravoure commune à toutes les classes. Mais les paysans russes, cette nombreuse partie de la nation qui ne connaît que la terre qu'elle cultive et le ciel qu'elle regarde, a quelque chose en elle de vraiment admirable. La douceur de ces hommes, leur hospitalité, leur élégance naturelle sont extraordinaires. Aucun danger n'a d'existence à leurs yeux. Ils ne croient pas que rien soit impossible quand leur maître le commande. Ce mot de maître, dont les courtisans font un objet de flatterie et de calcul, ne produit pas le même effet sur un peuple presque asiatique. Le monarque étant chef du culte fait partie de la religion. Les paysans se prosternent en présence de l'empereur comme ils saluent l'église devant laquelle ils passent. Aucun sentiment servile ne se mêle à ce qu'ils témoignent à cet égard. Grâce à la sagesse éclairée du souverain actuel, toutes les améliorations possibles s'accompliront graduellement en Russie. Mais il n'est rien de plus absurde que les discours répétés d'ordinaire par ceux qui redoutent les lumières d'Alexandre. Pourquoi, disent-ils, cet empereur, dont les amis de la liberté sont si enthousiastes, n'établit-il pas chez lui le régime constitutionnel qu'il conseille aux autres pays? C'est une des mille et une ruses des ennemis de la raison humaine que de vouloir empêcher ce qui est possible et désirable pour une nation, en demandant ce qui ne l'est pas actuellement chez une autre. Il n'y a point encore de tiers état en Russie. Comment donc pourrait-on y créer un gouvernement représentatif? La classe intermédiaire, entre les boyards et le peuple, manque presque entièrement. On pourrait augmenter l'existence politique des grands seigneurs et défaire à cet égard l'ouvrage de Pierre Ier. Mais ce serait reculer au lieu d'avancer, car le pouvoir de l'empereur, tout absolu qu'il est encore, est une amélioration sociale en comparaison de ce qu'était jadis l'aristocratie russe. La Russie, sous le rapport de la civilisation, n'en est qu'à cette époque de l'histoire où, pour le bien des nations, il fallait limiter le pouvoir des privilégiés par celui de la couronne. 36 religions, en y comprenant les cultes païens, 36 peuples divers, sont non pas réunis, mais épars sur un terrain immense. D'une part, le culte grec s'accorde avec une tolérance parfaite. Et de l'autre, le vaste espace qu'occupent les hommes leur laisse la liberté de vivre chacun selon ses mœurs. Il n'y a point encore dans cet ordre de choses des lumières qu'on puisse concentrer, des individus qui puissent faire marcher des institutions. Le seul lien qui unisse des peuples presque nomades et dont les maisons ressemblent à des tentes de bois établies dans la plaine, c'est le respect pour le monarque et la fierté nationale. Le temps en développera successivement d'autres. J'étais à Moscou un mois, jour pour jour, avant que l'armée de Napoléon y entrât, et je n'osais m'y arrêter que peu de moments, craignant déjà son approche. En me promenant au haut du Kremlin, palais des anciens tsars, qui domine sur l'immense capitale de la Russie, et sur ces 1800 églises, je pensais qu'il était donné à Bonaparte de voir les empires à ses pieds, comme Satan les offrit à notre Seigneur. Mais c'est lorsqu'il ne lui restait plus rien à conquérir en Europe que la destinée l'a saisi, pour le faire tomber aussi rapidement qu'il était monté. Peut-être a-t-il appris depuis que, quels que soient les événements des premières scènes, il existe une puissance de vertu qui reparaît toujours au cinquième acte des tragédies. Comme chez les anciens, un dieu tranchait le nœud quand l'action en était digne. La persévérance admirable de l'empereur Alexandre, en refusant la paix que Bonaparte lui offrait, selon sa coutume, quand il fut vainqueur. L'énergie des Russes qui ont mis le feu à Moscou pour que le martyr d'une ville sauvât le monde chrétien contribuèrent certainement beaucoup au revers que les troupes de Bonaparte ont éprouvé dans la retraite de Russie. Mais c'est le froid, ce froid de l'enfer, tel qu'il est peint dans le Dante, qui pouvait seul anéantir l'armée de Xérès. Nous qui avons le cœur français, nous nous étions cependant habitués, pendant les 15 années de la tyrannie de Napoléon, à considérer ses armées par-delà le Rhin comme ne tenant plus à la France. Elles ne défendaient plus les intérêts de la nation, elles ne servaient que l'ambition d'un seul homme. Il n'y avait rien en cela qui pût réveiller l'amour de la patrie. Et, loin de souhaiter alors le triomphe de ses troupes, étrangères en partie, on pouvait considérer leur défaite comme un bonheur même pour la France. D'ailleurs, plus on aime la liberté dans son pays, plus il est impossible de se réjouir des victoires, dont l'oppression des autres peuples doit être le résultat. Mais qui pourrait entendre néanmoins le récit des maux qui ont accablé les Français dans la guerre de Russie, sans en avoir le cœur déchiré? Incroyable homme, il a vu des souffrances dont on ne peut aborder la pensée. Il a su que les grenadiers français, dont l'Europe ne parle encore qu'avec respect, étaient devenus le jouet de quelques juifs, de quelques vieilles femmes de Vilna, tant leurs forces physiques les avaient abandonnés, longtemps avant qu'ils puissent mourir. Il a reçu de cette armée des preuves de respect et d'attachement, lorsqu'elles périssaient un à un pour lui. Et il a refusé 6 mois après, à Dresde, une paix qui le laissait maître de la France jusqu'au Rhin et de l'Italie tout entière. Il était venu rapidement à Paris après la retraite de Russie, afin d'y réunir de nouvelles forces. Il avait traversé avec une fermeté plus théâtrale que naturelle l'Allemagne dont il était haï, mais qui le redoutait encore. Dans son dernier bulletin, il avait rendu compte des désastres de son armée, plutôt en les outrant qu'en les dissimulant. C'est un homme qui aime tellement à causer des émotions fortes que quand il ne peut pas cacher ses revers, il les exagère pour faire toujours plus qu'un autre. Pendant son absence, on avait essayé contre lui la conspiration la plus généreuse, celle de Malet, dont l'histoire de la Révolution de France est offert l'exemple. Aussi lui causa-t-elle plus de terreur que la coalition même. Ah, que n'a-t-elle réussi cette conjuration patriotique ? La France aurait eu la gloire de s'affranchir elle-même, et ce n'est pas sous les ruines de la patrie que son oppresseur eût été accablé. Le général Malet était un ami de la liberté. Il attaquait Bonaparte sur ce terrain. Or, Bonaparte savait qu'il n'en existait pas de plus dangereux pour lui. Aussi ne parlait-il, en revenant à Paris, que de l'idéologie. Il avait pris en horreur ce mot très innocent parce qu'il signifie la théorie de la pensée. Toutefois, il était singulier de ne redouter que ce qu'il appelait les idéologues, quand l'Europe entière s'armait contre lui. Ce serait beau si, en conséquence de cette crainte, il eût recherché par-dessus tout l'estime des philosophes. Mais il détestait tout individu capable d'une opinion indépendante. Sous le rapport même de la politique, il a trop cru qu'on ne gouvernait les hommes que par leur intérêt. Cette vieille maxime, quelque commune qu'elle soit, est souvent fausse. La plupart des hommes que Bonaparte a comblés de place et d'argent ont déserté sa cause. Et ses soldats, attachés à lui par ses victoires, ne l'ont point abandonné. Il se moquait de l'enthousiasme, et cependant c'est l'enthousiasme, ou du moins le fanatisme militaire qui l'a soutenu. La frénésie des combats, qui dans ses excès même a de la grandeur, a seul fait la force de Bonaparte. Les nations ne peuvent avoir tort. Jamais un principe pervers n'agit longtemps sur la masse. Les hommes ne sont mauvais qu'un à un. Bonaparte fit, ou plutôt la nation fit pour lui, un miracle. Malgré ses pertes immenses en Russie, elle créa, en moins de 3 mois, une nouvelle armée qui put marcher en Allemagne et y gagner encore des batailles. C'est alors que le démon de l'orgueil et de la folie se saisit de Bonaparte, d'une façon telle que le raisonnement fondé sur son propre intérêt ne peut plus expliquer les motifs de sa conduite. C'est à Dresde qu'il a méconnu la dernière apparition de son génie tutélaire. Les Allemands, depuis longtemps indignés, se soulevèrent enfin contre les Français, qui occupaient leur pays. La fierté nationale, cette grande force de l'humanité, reparut parmi les fils des Germains. Bonaparte apprit alors ce qu'il advient des alliés qu'on a contraints par la force, et combien tout ce qui n'est pas volontaire se détruit au premier revers. Les souverains de l'Allemagne se battirent avec l'intrépidité des simples soldats, et l'on crut voir dans les Prussiens et dans leur roi guerrier le souvenir de l'insulte personnelle que Bonaparte avait fait subir quelques années auparavant à leur belle et vertueuse reine. La délivrance de l'Allemagne avait été depuis longtemps l'objet des désirs de l'empereur de Russie. Lorsque les Français furent repoussés de son pays, il se dévoua à cette cause, non seulement comme souverain, mais comme général. Et plusieurs fois il exposa sa vie, non en monarque garanti par ses courtisans, mais en soldat intrépide. La Hollande accueillit ses libérateurs et rappela cette maison d'Orange dont les princes sont maintenant, comme jadis, les défenseurs de l'indépendance et les magistrats de la liberté. Quelque influence qu'ait eue aussi sur cette époque les victoires des Anglais en Espagne, nous parlerons ailleurs de Lord Wellington, car il faut s'arrêter à ce nom, on ne peut le prononcer en passant. Bonaparte revint à Paris, et dans ce moment encore, la France pouvait être sauvée. 5 membres du corps législatif, Gallois, Rénoir, Flaugergue, Maine de Biran et l'aîné, demandèrent la paix au péril de leur vie. Chacun d'eux pourrait être désigné par un mérite particulier. Et le dernier que j'ai nommé, l'aîné, perpétue chaque jour, par ses talents et sa conduite, le souvenir d'une action qui suffirait pour honorer le caractère d'un homme. Si le Sénat avait secondé les 5 du corps législatif, si les généraux avaient appuyé le Sénat, la France aurait disposé de son sort, et quelque parti qu'elle eût pris, elle fût restée France. Mais 15 années de tyrannie dénaturent toutes les idées, altèrent tous les sentiments. Les mêmes hommes qui exposeraient noblement leur vie à la guerre ne savent pas que le même honneur et le même courage commandent dans la carrière civile la résistance à l'ennemi de tous, le despotisme. Bonaparte répondit à la députation du corps législatif avec une fureur concentrée. Il parla mal, mais son orgueil se fit jour à travers le langage embrouillé dont il se servit. Il dit que la France avait plus besoin de lui que lui d'elle, oubliant que c'était lui qui l'avait réduite à cet état. Il dit qu'un trône n'était qu'un morceau de bois sur lequel on étendait un tapis, et que tout dépendait de celui qui l'occupait. Enfin, il parut toujours enivré de lui-même. Toutefois, une anecdote singulière ferait croire qu'il était atteint déjà par l'engourdissement qui s'est montré dans son caractère pendant la dernière crise de sa vie politique. Un homme tout à fait digne de foi m'a dit que, causant seul avec lui, la veille de son départ pour l'armée, au mois de janvier 1814, quand les Alliés étaient déjà entrés en France, Bonaparte avoua, dans cet entretien secret, qu'il n'avait pas de moyen de résister. Son interlocuteur discuta la question, Bonaparte lui en présenta le mauvais côté dans tout son jour, et puis, chose inouïe, il s'endormait en parlant sur un tel sujet, sans qu'aucune fatigue précédente expliquât cette bizarre apathie. Il n'en a pas moins déployé depuis une extrême activité dans sa campagne de 1814. Il s'est laissé sans doute reprendre aussi par une confiance présomptueuse. D'un autre côté, l'existence physique, à force de jouissance et de facilité, s'était emparée de cet homme autrefois si dominé par sa pensée. Il était, pour ainsi dire, épaissi d'âme comme de corps. Son génie ne perçait plus que par moments cette enveloppe d'égoïsme qu'une longue habitude d'être compté pour tout lui avait donnée. Il a succombé sous le poids de la prospérité avant d'être renversé par l'infortune. On prétend qu'il n'a pas voulu céder les conquêtes qui avaient été faites par la République et qu'il n'a pu se résoudre à ce que la France fût affaiblie sous son règne. Si cette considération l'a déterminé à refuser la paix qui lui fut offerte à Châtillon au mois de mars 1814, c'est la première fois que l'idée d'un devoir aurait agi sur lui. Et sa persévérance en cette occasion, quelque imprudente qu'elle fût, méritait de l'estime. Mais il paraît plutôt qu'il a trop compté sur son talent, après quelques succès en Champagne, et qu'il s'est caché à lui-même les difficultés qu'il avait à surmonter, comme aurait pu le faire un de ses flatteurs. On était tellement accoutumé à le craindre qu'on n'osait pas lui dire les faits qui l'intéressaient le plus. Assurait-il qu'il y avait 20 000 Français dans tel endroit, personne ne se sentait le courage de lui apprendre qu'il n'y en avait que 10 000. Prétendait-il que les Alliés n'étaient qu'en tel nombre? Nul ne se hasardait à lui prouver que ce nombre était double. Son despotisme était tel qu'il avait réduit les hommes à n'être que les échos de lui-même, et que, sa propre voix lui revenant de toutes parts, il était ainsi seul au milieu de la foule qui l'environnait. Enfin, il n'a pas vu que l'enthousiasme avait passé de la rive gauche du Rhin à la rive droite, qu'il ne s'agissait plus de gouvernements indécis, mais de peuples irrités, et que, de son côté, au contraire, il n'y avait qu'une armée et plus de nations. Car dans ce grand débat, la France est demeurée neutre. Elle ne s'est pas doutée qu'il s'agissait d'elle quand il s'agissait de lui. Le peuple le plus guerrier a vu, presque avec insouciance, les succès de ces mêmes étrangers qu'ils avaient combattus tant de fois avec gloire. Et les habitants des villes et des campagnes n'aidèrent que faiblement les soldats français, ne pouvant se persuader qu'après 25 ans de victoire, un événement inouï, l'entrée des Alliés à Paris, put arriver. Elle eut lieu cependant, cette terrible justice de la destinée. Les coalisés furent généreux. Alexandre, ainsi que nous le verrons dans la suite, se montra toujours magnanime. Il entra le premier dans la ville conquise en sauveur tout-puissant, en philanthrope éclairé. Mais tout en l'admirant, qui pouvait être français et ne pas sentir une effroyable douleur? Du moment où les Alliés passèrent le Rhin et pénétrèrent en France, il me semble que les vœux des amis de la France devaient être absolument changés. J'étais alors à Londres et l'un des ministres anglais me demanda ce que je souhaitais. J'osais lui répondre que mon désir était que Bonaparte fût victorieux et tué. Je trouvais dans les Anglais assez de grandeur d'âme pour n'avoir pas besoin de cacher ce sentiment français devant eux. Toutefois, il me fallut apprendre, au milieu des transports de joie dont la ville des vainqueurs retentissait, que Paris était au pouvoir des Alliés. Il me sembla dans cet instant qu'il n'y avait plus de France. Je crus la prédiction de Burke accomplie et que là où elle existait, on ne verrait plus qu'un abîme. L'empereur Alexandre, les alliés et les principes constitutionnels adoptés par la sagesse de Louis XVIII éloignèrent ce triste pressentiment. Bonaparte entendit alors de toutes parts la vérité si longtemps captive. C'est alors que des courtisans ingrats méritèrent le mépris de leur maître pour l'espèce humaine. En effet, si les amis de la liberté respectent l'opinion, désirent la publicité, cherchent partout l'appui sincère et libre du vœu national, c'est parce qu'ils savent que la lie des âmes se montre seule dans les secrets et les intrigues du pouvoir arbitraire. Il y avait cependant encore de la grandeur dans les adieux de Napoléon à ses soldats et à leurs aigles si longtemps victorieuses. Sa dernière campagne avait été longue et savante. Enfin, le prestige funeste qui rattachait à lui la gloire militaire de la France n'était pas encore détruit. Aussi, le Congrès de Paris a-t-il à se reprocher de l'avoir mis dans le cas de revenir ? Les représentants de l'Europe doivent avouer franchement cette faute, et il est injuste de la faire porter à la nation française. C'est sans aucun mauvais dessein, assurément, que les ministres des monarques étrangers ont laissé planer sur le trône de Louis XVIII un danger qui menaçait également l'Europe entière. Mais pourquoi ceux qui ont suspendu cette épée ne s'accusent-ils pas du mal qu'elle a fait ? Beaucoup de gens se plaisent à soutenir que, si Bonaparte n'avait tenté ni l'expédition d'Espagne, ni celle de Russie, il serait encore empereur. Et cette opinion flatte les partisans du despotisme, qui veulent qu'un si beau gouvernement ne puisse pas être renversé par la nature même des choses, mais seulement par un accident. J'ai déjà dit ce que l'observation de la France confirmera. C'est que Bonaparte avait besoin de la guerre pour établir et pour conserver le pouvoir absolu. Une grande nation n'aurait pas supporté le poids monotone et avilissant du despotisme. Si la gloire militaire n'avait pas sans cesse animé ou relevé l'esprit public. Les avancements continuels dans les divers grades auxquels toutes les classes de la nation pouvaient participer rendait la conscription moins pénible aux habitants de la campagne. L'intérêt continuel des victoires tenait lieu de tous les autres. L'ambition était le principe actif du gouvernement dans ses moindres ramifications, titres, argent, puissance. Bonaparte donnait tout aux Français, à la place de la liberté. Mais, pour être en état de leur dispenser ces dédommagements funestes, il ne fallait pas moins que l'Europe a dévoré. Si Napoléon eût été ce qu'on pourrait appeler un tyran raisonnable, il n'aurait pu lutter contre l'activité des Français, qui demandaient un but. C'était un homme condamné, par sa destinée, aux vertus de Washington ou aux conquêtes d'Attila. Mais il était plus facile d'atteindre les confins du monde civilisé que d'arrêter les progrès de la raison humaine. Et bientôt, l'opinion de la France aurait accompli ce que les armes des alliés ont opéré. Maintenant, ce n'est plus lui qui seul occupera l'histoire dont nous voulons esquisser le tableau. Et notre malheureuse France va de nouveau reparaître après 15 ans pendant lesquels on n'avait entendu parler que de l'empereur et de son armée. Quel revers nous avons à décrire ! Quels maux nous avons à redouter ! Il nous faudra demander compte encore une fois à Bonaparte de la France, puisque ce pays, trop confiant et trop guerrier, s'est encore une fois remis à lui de son sort. Dans les diverses observations que je viens de rassembler sur Bonaparte, je n'ai point approché de sa vie privée que j'ignore, et qui ne concerne pas les intérêts de la France. Je n'ai pas dit un fait douteux sur son histoire, car les calomnies qu'on lui a prodiguées me semblent plus viles encore que les adulations dont il fut l'objet. Je me flatte de l'avoir jugé comme tous les hommes publics doivent l'être, d'après ce qu'ils ont fait pour la prospérité les lumières et la morale des nations. Les persécutions que Bonaparte m'a fait éprouver n'ont pas, je puis l'attester, exercé d'influence sur mon opinion. Il m'a fallu plutôt, au contraire, résister à l'espèce d'ébranlement que produisent sur l'imagination un génie extraordinaire et une destinée redoutable. Je me serais même assez volontiers laissé séduire par la satisfaction que trouvent les âmes fières à défendre un homme malheureux et par le plaisir de se placer ainsi plus en contraste avec ces écrivains et ces orateurs qui, prosternés hier devant lui, ne cessent de l'injurier à présent, en se faisant bien rendre compte, j'imagine, de la hauteur des rochers qui le renferment. Mais on ne peut se taire sur Bonaparte, lors même qu'il est malheureux, parce que sa doctrine politique règne encore dans l'esprit de ses ennemis comme de ses partisans. Car de tout l'héritage de sa terrible puissance, il ne reste au genre humain que la connaissance funeste de quelques secrets de plus dans l'art de la tyrannie.